Bonjour, vous écoutez l'épisode 60 du podcast Les Petits Plus Zen. Nous allons parler aujourd'hui de la rayure d'identité de chacun de nos enfants, de son histoire. Je m'appelle Séverine Feiss, je suis accompagnante à la parentalité et aux émotions après avoir été pendant 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+, et maintenant j'ai à cœur de vous accompagner sur votre chemin de parent pour savourer votre vie de famille, apaiser les émotions de chacun, mieux communiquer entre vous et retrouver du temps pour ceux qui comptent vraiment. Cette notion d'identité, vous l'avez retrouvée sur la rayure jaune de notre arc-en-ciel des besoins, donc soit dans l'épisode 7, soit dans l'épisode 32, je crois, l'épisode sur la rayure jaune. Pourquoi j'ai envie de vous faire ce sujet, c'est qu'en devenant enseignante en 99, je n'avais pas du tout cette notion que chaque enfant qui allait arriver dans ma classe avait des expériences de vie complètement opposées, avait des vécus et des références complètement opposées. Et même si dans notre formation théorique, on nous avait appris à coordonner un groupe, je n'imaginais pas encore à cette époque-là à quel point prendre en compte la singularité de chaque enfant, l'expérience et le vécu de chaque enfant serait la clé pour les faire progresser deux fois plus vite qu'en s'adressant à la classe entière, au collectif entier, et à construire mes séances comme si toute la classe avait les mêmes bases, les mêmes références et les mêmes acquis. Donc ça peut vous paraître évident pour l'instant de dire évidemment chaque élève a un vécu différent, mais quand on est dans le vrai monde d'enseignant, quand on est lancé dans la fosse et qu'on a les 22, 24, 26, 28 élèves devant nous, on a peu de temps pour définir ce qu'ils connaissent, ce qu'ils comprennent, ce qu'ils ont déjà vécu, entendu, su, vu. Et finalement, c'est tellement important de le faire qu'on pourrait ne pas construire du tout nos séances avant d'avoir fait le point sur chaque notion avec chaque élève. Vous voyez en quoi le fait de suivre un manuel aveuglément ou de faire une progression d'une année sur l'autre tombe directement aux oubliettes, puisqu'en prenant la singularité de chaque élève, on peut être sûr de ne pas refaire tel quel, quoi que ce soit, ni programme, ni séance, ni fiche d'exercice, et de devoir constamment l'adapter pour que chaque élève puisse en tirer un bénéfice réel, un intérêt réel et une compétence réelle. Donc sur le point professionnel, sur le point de la classe, ça m'est apparu très vite que je ne pourrais pas mener les activités frontalement de manière collective. Et c'est le dispositif des moins de 3 ans en 2015 qui m'a vraiment révélé cette notion qu'en prenant chaque enfant individuellement, en regardant ce qu'il avait déjà vécu dans la famille, avec ses frères et sœurs, avec ses parents, avec sa situation familiale, peut-être des déménagements, peut-être une langue d'origine différente, que c'est dans ces réponses-là que j'allais trouver des pierres pour construire ma progression, des pierres pour avoir une visibilité beaucoup plus fine sur ce dont il avait besoin. C'est comme ça qu'est né l'arc-en-ciel des besoins, que chaque enfant a le même arc-en-ciel des besoins, mais par contre aucun enfant n'a les mêmes besoins qui clignotent sur les mêmes rayures. Et tout l'intérêt pendant ces 6 ans où j'ai développé cet outil a été de voir que, en m'occupant en priorité de leur rayure jaune, de leur rayure d'identité, j'accédais finalement à tout ce qui n'était pas pris en compte dans les autres classes, tout ce qui n'était pas révélé et assumé, à savoir est-ce que l'enfant est dans une disposition pour apprendre, est-ce qu'au niveau de ses connaissances il sait où il en est, est-ce qu'il sait qui il est, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il comprend, quelles sont ses émotions, qu'est-ce qu'il a comme projet, est-ce qu'il se sent avoir une certaine puissance sur le monde extérieur ou est-ce qu'il se sent ballotté par les éléments. Quand j'avais certains élèves qui étaient sur le banc à attendre qu'on leur parle, qui ne voulaient se lancer dans aucun projet, j'ai vite compris que ces enfants-là, pour la plupart, on ne leur laissait pas exprimer qui ils étaient, donc là ça pourrait être sur une autre rayure, sur la rayure d'expression, mais c'est surtout parce qu'ils ne savaient pas qui ils étaient, pourquoi ils étaient là, qui les avait emmenés, qui étaient leurs parents, qui étaient leurs frères et sœurs, qui étaient leurs amis. Ils n'avaient pas du tout de réflexion, de visibilité, de compréhension de leur identité. Et puis, pas forcément les mêmes élèves, mais vous entendez sans doute autour de vous beaucoup d'étiquettes qui sont posées sur les enfants. Donc les enfants tout jeunes, hein. Ah, celui-là il est colérique, il est capricieux, il est timide, il est tout le temps en colère, il ne sait pas se tenir. Donc toutes ces étiquettes qu'on pose sur les enfants très jeunes, qui pourraient pour nous simplifier la façon de les voir, sont en réalité une sorte d'identité qu'on leur plaque sur le dos, comme si c'était définitif, comme si c'était inflexible, comme si c'était acquis, et qui, eux, non seulement l'adjectif, ils ne l'ont pas choisi, ils ne l'ont même pas compris, ils ne l'ont sans doute pas accepté non plus, et c'est un adjectif qui se pose sur l'être humain, sur l'enfant lui-même, au lieu de se poser seulement sur son comportement du moment, son action du moment, donc qui n'a rien à voir avec son identité en quelque sorte. Donc prenons une petite minute pour voir quels sont les adjectifs qu'on utilise sur nos propres enfants, sur nos élèves, pour voir si ces adjectifs-là les définissent réellement. Est-ce qu'ils sont corrects? Est-ce qu'ils sont figés dans le temps? Est-ce qu'on ne se base pas sur ces objectifs-là et sur ces adjectifs-là pour construire ensuite notre programme alors que ce n'était pas un référent stable? Donc repartons dans un premier temps de ce que l'enfant montre, fait, agit et dit pour voir de quoi il a besoin réellement, parce que si on ne regarde pas qui il est, on aura bien du mal à savoir ce dont il a besoin et ce qu'on va pouvoir faire pour l'accompagner, pour l'aider. Et ce sera la même chose dans un accompagnement à la parentalité. Si je ne sais pas qui vous êtes, ce que vous avez déjà vécu, ce que vous avez déjà compris et ressenti, je ne pourrai pas savoir ce dont vous avez réellement besoin. Donc, tous les accompagnements pour moi maintenant passent par une question de l'identité de la maman, l'identité de l'enfant, l'identité du couple aussi, comment il s'est construit, comment il va, comment il communique, qu'est-ce qu'il a déjà essayé, qu'est-ce qu'il a déjà vécu. Et de la même manière, notre enfant, quand on l'observe, il ne va pas pouvoir réagir de la même façon en fonction de ce qu'il a vécu. Il y a des enfants qui sont plutôt dans l'action, dans le projet, dans vraiment l'activité, parce qu'ils ont eu des expériences qui les ont confortés dans l'idée d'oser, dans l'idée de se lancer, dans l'idée que peut-être, oui, ils vont échouer, tomber, trébucher, mais qu'ils se relèveront. Et puis, il y a d'autres enfants, quand on les observe, on voit qu'ils n'osent pas se lancer, qu'ils sont plutôt sur la réserve, qu'ils sont plutôt dans la peur de l'échec, qu'ils sont plutôt dans le repli et le retrait. Donc, tout va passer par l'observation de notre enfant, de notre élève, de notre façon de vivre, pour après prendre conscience de ce qu'il manque, ce qui clignote sur nos rayures de besoin, ce dont on va pouvoir tirer comme première conclusion pour poser nos premières actions, soit d'accompagnement, soit d'éducation, soit d'enseignement. Avant de poser quoi que ce soit comme action, il va falloir faire un scan de la situation. Vous m'entendez beaucoup parler de cette notion parce qu'elle est fondamentale pour moi dans l'accompagnement d'un enfant. Je vais scanner ses besoins, je vais regarder tout ce qui va sur ses rayures d'arc-en-ciel des besoins et tout ce qui clignote. Je vais voir quel est le besoin le plus urgent. Est-ce que c'est un besoin de confiance, de sécurité, d'expression, de détente, de mouvement? Et ensuite, quand j'aurai isolé son besoin, je vais pouvoir mettre en place une action qui correspond à ce besoin. Donc passer un temps de qualité en mettant en place une action et une activité qui nourrit ce besoin-là. Donc je vous renvoie pour ça à l'épisode central, qui est l'épisode 8 du Tekil, donc du temps de qualité pour nourrir les besoins de nos enfants et pour nourrir les nôtres aussi par ricochet. Hein. C'est quand même tout bénef parce que pendant qu'on nourrit les besoins de nos enfants, on nourrit indirectement aussi certains de nos besoins, pas tous, mais certains. Et sur la notion d'enfant, une fois que ces étiquettes, on commence à les décoller, qu'on enlève un peu ces retours très définitifs, on va pouvoir regarder si l'avis de l'enfant compte, si le geste de l'enfant est pris en considération pour ne pas induire ce qu'il devrait faire pour nous faire plaisir. Donc j'en arrive à une deuxième notion qui est assez centrale, c'est que l'enfant qui ne sait pas, qui ne veut pas, qui n'a pas essayé, pourrait être télécommandé finalement par le règne adulte, que ce soit les enseignants, les parents, et ne suivre que l'avis général, ne suivre que l'avis du plus fort, celui qui crie le plus fort, celui qui contraint, celui qui tape, celui qui exige, sans savoir finalement ce qu'il aurait voulu lui-même dans son identité, dans son besoin. Alors, ça vous paraît peut-être difficile à croire, mais il y a des enfants déjà à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans, qui ne savent pas du tout ce qu'ils veulent faire dans la classe, qui attendent que ce soit l'adulte qui décide pour eux. Ça m'a posé beaucoup de questions, et après je me suis rendu compte que finalement, ces enfants-là attendaient systématiquement l'avis du parent, la consigne du parent, voire l'injonction du parent, fais ceci, mets-toi là, viens ici, tais-toi. Donc ça marchait à la baguette, ça marchait à l'ordre, et l'enfant avait définitivement oublié qu'il avait des envies, des plaisirs, des projets. Donc ce n'était pas représentatif de toute la classe, mais chaque année j'avais 3 ou 4 enfants qui attendaient que je décide pour eux de ce qu'ils devaient faire. Donc c'est des choses qui sont évoquées hein, dans le livre Les lois naturelles de l'enfant de Céline Alvarez, dont je vous parle très souvent dans le podcast et puis sur mes réseaux sociaux. Si on impose notre vision du monde, notre façon de faire à nos enfants, au bout d'un moment, ils vont se plier à notre vision du monde et notre façon de faire. Et ils ne sauront plus finalement ce qu'ils voulaient, eux, dans leur propre identité, puisqu'ils se conforment aux attentes systématiques des adultes. Donc, on peut déjà ouvrir cette petite porte sur l'identité, que ce que l'enfant veut n'est peut-être pas le même projet que celui que le parent veut, que ce que l'enfant a besoin n'est peut-être pas ce que le parent croit que l'enfant a besoin. Alors oui, je conçois que ce soit inconfortable à entendre et que ce ne soit pas très agréable pour vous de vous dire « mais si, je connais mon enfant, je sais ce dont il a besoin, je sais ce dont il a envie ». Peut-être que la plupart du temps c'est le cas et peut-être que d'autres moments non. On n'est pas complètement sûr de ce que notre enfant veut, de ce que notre enfant a besoin. Parce que nous-mêmes, on est empêtrés dans notre liste personnelle, individuelle, collective du travail, de la maison, de la logistique. Donc, pour retrouver l'identité de notre enfant, il va falloir refaire un pas de recul en disant « Qui est réellement mon enfant ? Qu'est-ce qu'il aime ? Ce dont il a envie ? Ce dont il a besoin ? Ce qu'il aimerait réussir comme prochain projet ? Ce que je mets à disposition pour qu'il y arrive, quelles sont les ressources que je partage avec mon enfant pour qu'il puisse essayer de s'accomplir sur sa rayure jaune, qu'il puisse avoir ses premiers résultats de puissance personnelle et qu'il puisse se donner un projet, se sentir fort, se sentir en réussite, se sentir accompli dans une réalisation de lui-même. Et évidemment, c'est un carburant pour l'estime de lui qui va lui servir pour toute la vie. Alors que certains enfants qui étaient éteints sur le banc à attendre que l'adulte télécommande et décide pour eux, n'ont finalement déjà plus d'estime sur leurs propres projets et envies, puisqu'ils ont été cassés dans l'énergie, cassés dans la motivation, dès tout petit, de ne pas avoir le droit d'exprimer, de faire et d'agir comme ils le voulaient. On a en sous-tâche, hein, en action de fond, les violences éducatives ordinaires. Je vous mets ce point de vigilance ici. Quand on crie, tape, soumet notre enfant toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, à un moment donné, l'enfant ne cesse pas d'aimer ses parents, hein, c'est pas la question. Il cesse juste d'avoir confiance en lui. Il cesse juste d'avoir des projets personnels et il se définit lui-même comme incapable, impuissant, inutile, non aimé, hein, si je vais vraiment dans l'extrême, notre petit enfant, qui était plein de joie, plein de vie et plein de projets, quand il a été rabaissé, quand il a été critiqué, quand il a été tapé, à un moment, il n'essaye plus, il n'attend plus grand-chose, il attend éventuellement de se rebeller plus tard et de s'affirmer plus tard. Donc ça dépend après des crises d'adolescence ou pas. Mais en l'état, si on bride complètement les désirs et les envies de nos enfants, dans une limite raisonnable, ils n'essaieront plus, ils n'auront plus confiance en leur force intérieure et leur capacité à faire. Donc, maintenant que j'ai posé le « ce serait mieux de ne pas », vous aimez, comme moi, les énoncés clairs et positifs, donc on va reformuler ça autrement. La difficulté du parent, c'est d'entendre les besoins de nos enfants dans leur identité actuelle, dans leur développement actuel, dans leurs émotions actuelles, sans laisser passer tous les désirs et les envies. La notion entre besoin et désir, la notion entre besoin et envie, elle est difficile à comprendre, elle est subtile pour un parent, parce qu'elle pourrait très vite se rapprocher de l'épisode que j'ai fait sur les caprices ou sur les bêtises. Quand un enfant agit, bien sûr, il agit pour se faire plaisir, il agit pour satisfaire un de ses besoins. La manière dont il va satisfaire ce besoin peut ne pas nous plaire. C'est normal, puisqu'il n'a pas encore beaucoup de stratégies pour satisfaire ses besoins, donc il peut déranger notre petit monde intérieur et notre petite logistique de parents. Donc, notre capacité à réagir au comportement de notre enfant vont être fondamentales pour éviter de hurler notre désagrément et notre colère qui vient donc de notre propre cheminée des émotions et qui n'a rien à voir avec le comportement de l'enfant. Il a juste à voir avec le résultat du comportement de l'enfant qui nous a mis une flamme dans notre cheminée et qui a été un déclencheur neutre. Je salue les 7 mamans que j'accompagne dans Emotizen qui connaissent maintenant bien ces processus à l'œuvre dans notre cheminée des émotions. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me rajouter sur Instagram pour avoir tous ces détails-là sur le parcours en ligne signature qui s'appelle Emotizen. Mais notre enfant, quand il est en train de satisfaire ses besoins, avec joie, avec plaisir, puisqu'il est défini comme ça, il a été créé pour chaque matin satisfaire une partie de ses besoins, il peut être maladroit. Il peut utiliser des stratégies qui ne sont pas adaptées. Tout notre travail en tant qu'accompagnant, en tant qu'enseignant, en tant que parent, va être de lui expliquer que ce choix-là de stratégie n'est pas le seul possible. Que pour nourrir ce besoin-là d'accomplissement, de détente, de mouvement, il peut utiliser d'autres méthodes sur son éventail de stratégies. Qu'il ne connaît pas encore, puisqu'il ne connaît pas encore la vie. Et on est là pour ça, on est là pour lui proposer d'autres méthodes, d'autres stratégies, d'autres lamelles sur son éventail de stratégies à lui pour nourrir chacun de ses besoins de manière à ce que son comportement n'affecte pas, n'ait pas de conséquences négatives sur le groupe, sur les autres élèves, sur ses frères et sœurs ou sur notre vie de parents. Donc on est en train de prendre en charge les conséquences des actions de nos enfants, alors que eux sont juste dans la satisfaction de leurs besoins primaires. On n'est pas du tout dans la même catégorie. Et quand on leur reproche de mal se comporter, de faire des caprices et des bêtises, mais je vous renvoie à l'épisode 45 et 47, je crois, à vérifier, ces moments-là ne sont pas la réalité. Ces moments-là, ce sont des pistes d'amélioration pour lui dire « Ah, je comprends que tu as envie de sauter partout et de lancer des objets, mais là, dans le salon, ce n'est pas possible. Donc, si tu as besoin de sauter partout et de lancer des objets, viens, on va au parc, on emmène le ballon, et comme ça, tu pourras te dépenser et satisfaire ton besoin de mouvement, ton besoin de défi, ton besoin de challenge. » Donc, notre travail va être de décoder à chaque instant qui il est et quel besoin il a, dans quelle émotion il est, de quoi il a besoin pour apaiser son émotion ou pour raviver son plaisir et sa joie, pour qu'ensuite on puisse lui proposer une activité qui soit adaptée. Et en ça, avoir à notre disposition une réserve d'activités, une réserve d'idées, de stratégies différentes, va nous permettre, nous parents, d'être plus à l'écoute de nos enfants dans leur identité propre, puisqu'on peut avoir 3 enfants complètement différents qui ont des besoins en mouvement différents, des besoins de silence différents, des besoins d'autonomie différentes. Et pour chacun des identités de nos enfants, on va mettre en place des stratégies différentes. Et vous voyez en quoi la vie scolaire est incapable de réussir à mettre en place ce genre de choses, puisqu'on ne peut pas prendre en compte l'identité de chaque élève dans un groupe de 23 quand on est le seul adulte. C'est absolument impossible. Donc on fait à la va-vite, on fait comme on peut, on bâcle, on fait de notre mieux. Un big up à tous les enseignants qui sont encore dans le système de l'éducation nationale. Je pense que j'aurais pas pu tenir une année de plus et que 22 ans, c'était la limite absolue pour moi. Mais en l'état, il est beaucoup plus confortable pour moi de prendre en compte l'intégralité des besoins d'un élève et de ses parents, des besoins de l'enfant et de son couple parental, pour voir ce dont ils ont vraiment besoin. Parce que sinon, on propose des solutions, on propose des activités qui tombent complètement à plat. Parce qu'on ne s'appuie pas sur leur identité initiale, la connaissance de leurs propres besoins, de leurs propres émotions. Donc ce que je vous invite à faire au maximum, c'est de voir qui est votre enfant, qui sont vos enfants si vous en avez plusieurs, à quoi ils sont sensibles, qu'est-ce qu'ils aiment vraiment, pour voir comment leur parler. Il y a des enfants qui ont besoin de beaucoup d'explications et d'autres beaucoup de calme. Il y a des enfants qui ont besoin de beaucoup d'action et d'autres qui ont besoin de plus de coopération et de collectif. Donc c'est à voir en fonction de l'identité de chacun de vos enfants. J'ai envie aussi de vous demander si vous êtes au point sur la généalogie et la filiation de chacun de vos enfants, parce que on entend dans certaines familles, j'ai le souvenir d'un petit garçon dont les parents étaient séparés, qui ont eu du mal à expliquer à leur enfant qu'ils étaient séparés. Donc ils étaient restés plusieurs mois dans un non-dit, alors que l'enfant avait bien compris le malaise de la situation, mais il attendait qu'on pose des mots sur la réalité, qu'il attendait la vérité de la situation, et les parents, en ayant peur de lui faire de la peine, en ayant peur de le décevoir, en ayant peur d'affronter, en quelque sorte, la réaction de leur enfant, la tristesse dans ses yeux, ont préféré ne rien dire, ont préféré étouffer l'affaire, cacher l'affaire. Et pour un autre petit garçon, c'était carrément la mort de son père qui avait été cachée. On lui avait dit que son père était parti en voyage et qu'il était resté là-bas. Donc il y a des non-dits dans la famille qui sont, je pense, dus à une difficulté d'accepter l'émotion de l'autre, d'accepter que notre enfant puisse être triste, d'accepter que notre enfant puisse être en colère. Alors que justement, la cheminée des émotions est là quoi qu'il en soit. Donc notre enfant sera triste dans sa vie, notre enfant sera en colère dans sa vie, notre enfant aura peur dans sa vie. Il est bien plus utile pour nous de les aider à apprivoiser leur cheminée des émotions et d'admettre pour nous-mêmes dans notre cheminée qu'on n'est pas responsable de la réaction des autres, mais qu'on peut, en tout état de cause, expliquer et exprimer ce qu'il se passe pour de vrai. J'ai partagé une fois dans une room sur Clubhouse une petite anecdote. Ma fille avait eu un eczéma énorme au pli des coudes que je n'avais pas encore attribué à quelque chose qui s'était passé la semaine d'avant. Et quand j'en ai pris conscience, je me suis dit que la somatisation était quand même assez énorme. Et Livna se grattait à sang sur les pliures des coudes parce que je ne lui avais pas dit ce qui s'était passé le vendredi d'avant. J'avais voulu taire ce qui s'était passé pour lui éviter d'avoir peur, d'être triste, d'être dans une émotion désagréable. Donc je pensais la préserver de cette émotion que moi-même, je vais l'admettre complètement, j'avais eu du mal à gérer pour moi. Et finalement, le malaise, elle l'avait senti, le non-dit, le tabou, elle l'avait senti, et elle l'avait exprimé par autre chose, elle l'avait exprimé par un eczéma, par des grattages intempestifs. Donc, cette chose que je n'avais pas voulu lui dire, et que je n'avais pas réussi à lui dire et à trouver les bons mots, c'est que le vendredi d'avant, à la pharmacie où j'achetais un des produits pour autre chose de la famille, on avait été braqué par un des délinquants du quartier, parce qu'on était en REP+, donc c'est pas ça qui manquait dans le quartier. Et ce jour-là, on avait été braqué. J'avais été assez choquée de voir ce type rentrer avec sa cagoule et son flingue, braquer la pharmacienne et être à 2 mètres de nous avec son flingue. Et le fait est que je n'ai pas pu redescendre de cette situation personnellement avant plusieurs jours. Donc j'étais incapable de lui expliquer qu'il s'était passé quelque chose de grave dans la pharmacie, que j'avais eu peur, que je m'étais dit, si ça se trouve, je ne reverrai pas ma fille, si ça se trouve, il va tous nous descendre. Toutes ces pensées qui sont arrivées ce jour-là, maintenant, je peux les scanner avec mes outils. Maintenant, je peux me les approprier, les reformuler, les traverser et les vivre. Et donc, je peux expliquer maintenant quelque chose qui m'arrive en direct à mes enfants. Mais à l'époque, je n'avais pas du tout ces outils-là. J'étais incapable de prendre en charge mes propres émotions. Et donc, j'avais descendu une cloison étanche en disant « je ne dirai rien à ma fille, elle n'a pas besoin de savoir, elle est trop petite pour ça ». Mais la force de la sensibilité de ces enfants, les enfants sentent ce qui ne va pas, les enfants sentent qu'il y a un problème, les enfants voient notre stress à tout moment et déclenchent eux-mêmes des petits signaux d'alerte qui nous font penser qu'on pourrait très bien leur dire, en choisissant les bons mots, peut-être en nous faisant accompagner si on n'y arrive pas, pour éviter de contaminer finalement les propres émotions de nos enfants et de les faire partager avec nos émotions qui sont difficiles à accepter. Donc ce petit point sur l'eczéma pour dire que nos non-dits, nos tabous, nos secrets de famille, nos tensions sont une partie de l'identité de la famille, sont une partie de ce qu'il se passe dans la famille. Et je crois qu'on a tous des exemples dans nos familles de choses qui ont été cachées dans la génération d'avant, peut-être une fausse couche, peut-être une mort par suicide, peut-être un accident grave, une faillite, une honte, une culpabilité, un problème pendant la guerre. Et ces notions-là, il y a vraiment un grand courant qui s'appelle le transgénérationnel qui m'intéresse beaucoup. Je pense que je me formerai là-dessus un jour. Mais sur ce petit point précis, il y a dans notre identité, nous d'adultes, des choses qui ne sont pas résolues à un niveau générationnel, à un niveau supérieur, des choses qui sont peut-être des braises dans notre foyer de cheminée des émotions. Les filles vont bientôt voir ça aussi dans le parcours émotizen. Ces braises-là, ce sont des émotions qui peuvent se réactiver à tout moment puisqu'elles n'ont toujours pas été traversées et soldées. Donc quand on cache des choses à nos enfants, quand on a des non-dits sur des situations, je me souviens notamment d'une amie qui avait hésité à dire à sa fille ce qui s'était passé avec son père et je l'avais encouragée à expliquer avec des mots simples que oui, son père avait eu certaines réactions inappropriées, qu'il y avait eu des conflits, qu'il y avait eu des disputes. Poser des mots n'est jamais facile devant un enfant, mais poser des mots est plus puissant que rester dans un silence d'imagination qui est encore plus difficile pour un enfant, qui s'imagine des choses peut-être encore plus graves parce qu'il sent l'émotion. Il sent l'énergie différente autour de ce sujet, autour de cette relation passée, autour de cette personne qui vient comme un petit bout de fantôme autour de nous et qui a laissé une trace qui n'est pas très lisible, claire et définie. Donc sur ces notions d'identité, je vous laisse faire le point peut-être dans votre couple, peut-être avec vos parents, voir quels sont les boulets qu'on se traîne chacun individuellement et ceux dont on voudrait se libérer. Je parle des fois avec les mamans de balayer les cendres de notre cheminée des émotions parce qu'on a du tri chacun à faire avec notre propre cheminée avant de pouvoir l'exprimer facilement à nos enfants. Donc c'est vraiment de nous à nous dans un premier temps, mais pour libérer nos enfants de tout ce qu'on a nous comme braise et comme cendre dans notre cheminée, il est plus facile de faire le travail en amont. On ne l'a parfois pas fait avant d'être parent parce qu'on n'imaginait pas tout ce que ça allait chambouler en nous. Et c'est bien ce qu'on travaille après dans les programmes en ligne. Mais la réalité, c'est que si nous, on fait notre part de clarté sur ce qu'on a comme identité, comme filiation, comme généalogie, on sera bien plus au clair ensuite pour dire à nos enfants ce qu'il s'est passé dans notre vie à nous, d'enfants, d'adultes, de mamans, de parents, de grands-parents, parce qu'on sera plus léger pour le verbaliser, pour le parler avec clarté. Je reviens au sujet d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que raconter son histoire à nos enfants est important pour qu'ils ne se comparent pas aux autres dans leur vie personnelle, dans leur vie pro, dans leur vie amoureuse, et pour qu'ils soient leur propre support de référence, pour qu'ils soient leur propre idée d'utilité, qu'ils connaissent leurs objectifs, leurs projets et leurs besoins. On va aussi leur donner leur identité à nos enfants pour qu'ils ne se perdent pas dans la société de consommation, avec les injonctions à dépenser, à suivre la meute, à suivre celui qui parle le plus fort ou le parti politique qui est dans son quartier ou de rentrer dans une case parce qu'il est telle ou telle caractéristique physique, physiologique, de genre et tout ça. Donc, lui redonner son identité très tôt, c'est admettre qu'il est différent des autres, c'est admettre qu'il n'a pas à se comparer à tous ceux qu'il voit autour de lui parce qu'il est unique, parce qu'il est singulier. Et que comme nous, on est entièrement unique et différent des autres personnes de notre famille, des autres personnes de notre vie, de notre société, de notre association, de notre projet. On est tous complètement uniques et chacun de nos enfants est absolument unique aussi dans ses choix de vie, dans ses besoins, dans ses projets, dans ses ressentis, dans sa manière de traverser les émotions. C'est utile de lui expliquer que sur sa mesure à lui, il n'y aura pas que des choix faciles à faire. Quand il va faire des choix de carrière, de partenaire de vie, de département peut-être, de localisation, il va y avoir des déceptions dans les gens qu'il va fréquenter. Il ne va pas être responsable de ce que les gens ressentent, mais par contre, il va se sentir responsable et fier de faire ses propres choix. La notion de propre choix, vous l'avez entendu dans l'épisode 22 pour le tout jeune enfant, mais là j'extrapole un peu sur le fait que quand notre enfant va grandir, il va être à même de faire aussi ses propres choix d'adulte. Et en lui donnant son identité très tôt, il va pouvoir s'appuyer du coup sur ses forces et ses ressources à lui, sans faire plaisir aux autres, sans se référer à des gens qui, autour de lui, décident à sa place. Ça veut dire que nous, notre posture, elle est très importante là-dessus. On va devoir se détacher de l'impression, de l'illusion qu'on sait tout ce qui est bon pour notre enfant. Et oui, c'est inconfortable parce qu'on ne pourra pas être la meilleure personne ressource toute sa vie. On va être la personne ressource pour ses 5 premières années et ensuite on va passer la main, on va donner une partie de notre pouvoir d'éducateur, d'enseignant, de parent à d'autres personnes. Notre enfant, il va créer son identité au contact des nouvelles personnes de sa vie, une nouvelle enseignante, un nouveau prof de tennis, une nouvelle copine au collège, à force de vivre des expériences individuelles sur mesure, il va continuer à se créer sa propre identité. Et c'est pour ça qu'on ne reconnaîtra pas à plusieurs moments nos propres enfants. Ils auront fait des choix qui leur appartiennent, ils auront fait des choix qui sont liés à leur plaisir du moment, à leurs besoins du moment, et on peut se mettre, nous, en description des faits, en leur disant « Ah, tu as choisi de faire ça aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es à l'aise avec ça? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que toutes les conséquences que tu as vues sont positives ?» On va se remettre dans une posture de description des faits. On va se mettre dans une posture de mettre sur la balance les bénéfices, les inconvénients, les avantages, les options possibles, les activités possibles. On va devenir une base arrière de référence. On va devenir une base arrière de sécurité. Vous m'entendez souvent parler de l'image d'Anne Reynaud du porte-avions. On va devenir un porte-avions pour que nos enfants puissent s'envoler, puissent vivre leur vie. Et s'ils ont besoin, ils reviendront vers nous. Au lieu de décrire qui ils sont, on va plutôt essayer de décrire leur comportement. On va essayer de parler de leurs actions et non pas les étiqueter à nouveau en disant « tu ne sais pas faire, tu n'es pas capable de ». On va juste décrire « est-ce que pour ton déménagement, je peux te proposer mon aide ?» Vraiment de poser des mots qui soient en lien avec des comportements, des actions et non plus des personnes et des attitudes. C'est difficile à faire, surtout quand on n'a pas été élevé spécialement comme ça. Donc c'est l'occasion une fois de plus de revisiter ce qu'on a entendu nous en tant qu'enfant. Est-ce que nous on a critiqué notre personne ou critiqué nos actions? Est-ce qu'on est au clair avec le fait que notre personne est différente de nos actions? Est-ce qu'on se satisfait d'avoir échoué suffisamment pour en tirer une expérience? Donc il y a aussi notre rapport à l'échec qui est intéressante pour construire notre estime de nous. Ça fera peut-être l'objet d'un autre sujet et d'une autre séance d'épisode. Mais là, pour le coup, valoriser les stratégies que notre enfant a, sa créativité, je vous en parlais dans l'épisode 47, c'est une manière de lui dire « tu peux essayer des choses, tu peux tirer des conclusions de tes actions, tu peux voir ce qui te va, ce qui te plaît, fais tes propres choix, ose essayer, vois ce qui te convient et si tu as besoin d'aide, je serai là. » Ça veut dire qu'on se met en référence pour répondre à ces questions de manière précise. On lui permet d'affirmer ses positions, ses opinions, un peu comme on a vu dans l'atelier philosophique. On lui permet de réfléchir à sa vie. On lui permet d'essayer des choses sans juger de ce qui serait bon pour lui, mais en l'invitant à réfléchir à ce qu'il trouve bon pour lui. Si sa sécurité était en danger, on interviendrait. Mais dans la mesure où sa sécurité n'est pas en danger, laissons un maximum l'enfant prendre conscience et connaissance des conséquences de ses actions, des résultats de ses projets, des actions et des projections qui sont parfois malheureuses, malencontreuses, du choix de stratégie qui n'est peut-être pas le plus adapté. Donc on requalifie son action, on verbalise le résultat, on lui met sur un plateau de quoi réfléchir et de quoi conclure. Si on arrive en étant toujours l'expert et le juge parfait de ce qu'il doit faire et pas faire, il ne saura pas se fier à son intuition, il ne saura pas se fier à sa propre confiance en lui, puisqu'il sera constamment en train de chercher l'approbation de l'adulte, du professeur, du partenaire ou du patron. Cette manière de lui rendre son identité, de lui rendre les conséquences de ses activités et de ses actions, c'est lui permettre de grandir sans nous. Alors oui, ça peut être délicat parce que si nous on a fait nos enfants pour qu'ils nous prolongent, si nous on a fait nos enfants pour qu'ils soient des faire-valoir, pour qu'ils soient à la hauteur de nos espoirs, il y a peut-être quelque chose à reconsidérer. Si on a fait nos enfants pour qu'ils soient des meilleures versions de nous-mêmes, ça va nous piquer à un moment de voir que les enfants qu'on a faits ne sont pas là pour résoudre nos propres attentes et nos propres ambitions. Donc je vous invite aussi à regarder si, quand on voit que nos enfants font des projets divergents, font des projets éloignés de nos valeurs, à quel point ça nous fait réagir, nous, dans notre propre cheminée des émotions, à quel point on remet en cause notre mode de parentalité et parfois leur identité, alors qu'en réalité, notre enfant, il essaye d'expérimenter sa vie, de faire sa place, de trouver sa propre voie. Que ça nous fasse réagir dans notre cheminée des émotions, c'est naturel, c'est normal, et c'est à nous de creuser ça. Par contre, le rendre responsable de nos émotions n'est pas la réalité. ce qui réagit dans notre cheminée, c'est la projection qu'on avait faite de notre enfant, c'est ce qu'on croit avoir compris de ses choix de vie qui ne sont pas non plus la réalité. Donc on pourra communiquer avec lui de tout ça, on pourra lui demander si ça lui va comme projet, si son orientation est à la hauteur de ce qu'il attend, s'il a bien pris en considération toutes les informations qu'il avait à sa disposition. On pourra communiquer avec lui, mais si on veut qu'à long terme, il puisse exercer sa propre place et sa propre puissance personnelle et révéler son identité, en quelque sorte, créer sa propre histoire, il va falloir qu'on recule un peu et qu'on lui laisse faire quelques expériences, prendre les décisions qui s'imposent et voir les conclusions de ses actes. Donc, prenons en compte sa présence, ses idées, sa propre place dès qu'il est tout petit, petite touche par petite touche, hein, une fois par jour, de lui proposer un choix, de voir ses résultats, de lui faire verbaliser ses opinions, son avis, ses émotions, ses besoins, pour qu'il prenne l'habitude de faire en lui-même le point sur ce qu'il a envie, sur ce qu'il a les capacités de faire, et non pas se référer toujours à ce que l'adulte veut de lui et attend de lui. En conclusion de cet épisode, j'aimerais vous dire que c'est une étape décisive pour nous, en tant que parents, de faire ce point-là, que c'est une étape délicate pour nous d'admettre que nos enfants vont vivre une vie différente de la nôtre, mais que c'est aussi une des beautés de la vie, que chaque génération va avoir ses propres choix, ses propres expériences, ses propres références. On le voit facilement au niveau des tenues vestimentaires, de la musique, de l'alimentation. Bien entendu, chaque génération a ses codes, a ses fonctionnements. Ça ne veut pas dire que la nouvelle génération a raison sur tout. Ça ne veut pas dire que l'ancienne génération a raison sur tout. Ça veut dire que la diversité et l'évolution de la planète, l'évolution de la société, font que les éléments sont différents. Factuellement, les éléments sont différents. Nos enfants ne vivent pas dans le même monde que nous. Nous ne vivons pas dans le même monde que nos parents. Et les trois générations mélangées n'ont absolument pas les mêmes projets, les mêmes envies et les mêmes cheminées. Donc quand on met dans la même salle pour un mariage, par exemple, une vingtaine de personnes qui ont un avis sur tout, qui ont des opinions sur tout, rappelons-nous bien que leur vision de la réalité est liée à leur arc-en-ciel de besoins. On n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes émotions, on n'a pas tous les mêmes rêves, et que si les personnes autour de nous nous font sentir que ce n'est pas comme ça qu'on devrait vivre, que ce n'est pas comme ça que c'est bien de vivre, peut-être que c'est leur déformation à eux, de leur cheminée à eux, et qu'on peut leur laisser cette émotion tranquillement dans leur cheminée. On n'a pas à prendre en responsabilité les émotions de chacun. Déjà, si on s'occupe de nos propres besoins et de nos propres émotions, on aura du travail pour les 50 prochaines années. Si après on s'occupe des émotions de notre très jeune enfant jusqu'à ses 3-4 ans, on aura bien de quoi faire aussi. Et de prendre un peu de distance avec ce qu'on attend des autres, avec ce que les autres attendent de nous, pour faire un peu de clarté sur notre propre identité. Je vous l'ai dit au début de cet épisode, la rayure d'identité, pour moi, c'est la première qu'on travaille en accompagnement, parce que je ne peux pas accompagner une personne qui ne sait pas encore ce qu'elle voudrait, ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit et ce qu'elle a reçu comme héritage avant de me rencontrer. Donc n'hésitez pas à me contacter si c'est quelque chose qui vous intéresse. Vous connaissez maintenant ma manière de pratiquer. On peut faire un scan ensemble de votre arc-en-ciel des besoins. On peut faire un scan ensemble de votre cheminée des émotions. Et quand on aura ces deux éléments-là, vous pourrez repartir avec un plan d'action beaucoup plus clair pour voir ce qui est principal et prioritaire pour vous. Ce qui est prioritaire pour vous ne l'est pas pour moi. Ce qui est prioritaire pour vous ne l'est pas pour votre partenaire, votre belle-mère, votre voisine. Il n'y a que vous qui sachiez ce qui se passe dans votre cheminée et sur votre arc-en-ciel de besoins. Et je me mets à votre disposition pour vous permettre de le recevoir, de le comprendre, de le verbaliser et de le vivre ensuite en toute autonomie. et j'adore ce métier-là pour ça, c'est que vous repartez des séances, vous repartez des coachings, vous repartez des offres en ligne en vous disant « j'ai un changement complet de regard sur ma vie intérieure grâce à la cheminée des émotions, grâce à l'arc-en-ciel des besoins, grâce au Tequil ». Vos retours me vont droit au cœur, hein. À chaque fois que vous me dites ça, à chaque fois que mes clientes me disent que j'ai changé leur façon de vivre, leur vie de famille, leur vie de couple et leur vie intérieure, je suis ravie d'entendre tout ça. N'hésitez pas à réécouter le témoignage notamment de Mattel qui parle de ça dans son accompagnement, c'est l'épisode 52. Et je vous souhaite à tous de trouver votre rayure d'identité en premier, pour pouvoir ensuite faire vraiment la clarté sur ce qui est de votre ressort, de votre envie, de votre projet de vie, sans devoir vous référer à ce que les autres attendent de vous. Les autres ne vont pas vivre votre vie et on a déjà bien assez de travail pour savoir ce qu'on veut nous-mêmes avec nos émotions, nos besoins, nos enfants et nos partenaires. Je vous souhaite une très très bonne semaine. N'hésitez pas à me rajouter sur vos réseaux sociaux, à mettre des petites étoiles aussi pour faire visibiliser ce podcast auprès de toutes les familles autour de vous. On a la conférence peut-être samedi, si vous avez envie de venir. C'est sur Houille dans le 78, sur le RERA. Je vais approfondir tous ces outils que vous entendez dans le podcast en 3D avec des vrais gens. J'adore cette idée. Je vous souhaite une très bonne semaine. Au revoir.